Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. On écoute le monde changer. Il est 8h.
On va être sur des sorties et des entrées permanentes. Ça va être très vite extrêmement compliqué à gérer. Et surtout, on va vider les établissements de leurs élèves.
Un seul élève contaminé, toute la classe est fermée. La nouvelle règle s'applique aujourd'hui dans les 19 départements les plus touchés par l'épidémie. Parents d'élèves et établissements vont devoir se débrouiller. S'agit-il de dérives racialistes ou de simples groupes de parole? Les réunions en non-mixité continuent de déchirer la gauche. Et puis les prêts garantis par l'État accordés dans l'urgence il y a un an, la facture est parfois plus lourde que prévu et menace certaines entreprises. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, l'ancien Premier ministre et conseiller municipal à Barcelone, Manuel Valls, auteur du livre « Pas une goutte de sang français » publié chez Grasset. Rendez-vous à 8h15 pour l'interview.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. À Paris, nous disait Nicolas Bétou à l'instant, celui de ne pas fermer les écoles pour ne pas freiner l'économie. Mais en renvoyant chez eux tous les élèves d'une classe, dès que l'un d'entre eux est positif, les conséquences risquent d'être massives. Surtout au rythme où vont les contaminations. Vendredi soir, 3250 classes étaient fermées. Mais au cours du week-end, il y a eu des emails et des coups de fil, comme ceux reçus hier, dimanche, à 16h, par ce papa, Nicolas, dont l'enfant est en CM.
On a reçu un mail et en plus la directrice a pris la peine d'appeler tous les parents. Moi je trouve ça très bien de prévenir les gens comme ça. Enfin, voilà, on sent qu'elle est concernée, cette directrice, qu'elle est embarrassée, qu'elle fait ce qu'elle peut avec le contexte. Et ben, du coup moi j'ai prévenu ma chef. Nous on a de la chance de pouvoir faire du télétravail. Donc on va s'organiser entre ma femme et moi pour rester à la maison, travailler et puis essayer aussi de nous occuper de Chloé, de lui faire ses devoirs et puis qu'elle passe pas trop de temps devant la télé parce que ça peut être un peu le risque. Évidemment, c'est pas génial de la prendre le dimanche. Fermer une école une semaine, on peut s'arranger. Si ça durait, c'est compliqué pour le coup.
Témoignage recueilli par Marion Gauthier pour Europe 1.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Spécialiste éducation d'Europe 1, cette nouvelle règle bouleverse encore l'organisation des établissements.
Oui, car la conséquence immédiate de cette mesure annoncée vendredi par le ministre, c'est que le nombre de classes fermées ne va cesser d'augmenter. Les parents vont donc devoir s'organiser en fonction, réagir très vite. Même chose pour les directeurs d'établissements qui sont déjà très inquiets, à l'image de Bruno Bobkiewicz, proviseur à Vincennes et membre du SNPDEN, le syndicat des personnels de direction.
On va devoir prévenir rapidement les élèves des classes. La problématique n'est pas la même en collège et en lycée, puisqu'on peut faire repartir les lycéens moins facilement les collégiens. Et puis, au bout de quelques jours, on va être sur des sorties et des entrées permanentes. Ça va être très vite extrêmement compliqué à gérer. Et surtout, on va vider les établissements de leurs élèves.
La situation risque d'être particulièrement compliquée au collège, car les familles doivent être prévenues avant que l'élève ne quitte l'établissement. Au lycée, les élèves peuvent repartir seuls. Inquiétude également pour remplacer les enseignants malades. Le ministre a indiqué vendredi prévoir des remplaçants sans donner plus de précisions. Les syndicats d'enseignants comme de proviseurs sont dubitatifs, car le vivier est déjà vide et aucun enseignant du second degré n'est jamais remplacé au pied levé pour 7 à 10 jours seulement.
Virginie Riva. Dans les services de réanimation en France, on arrive au niveau du pic de la deuxième vague de cet automne. Près de 4900 malades du Covid y sont actuellement soignés. Et puis alors que la vaccination demeure la clé de la sortie de crise, une proposition inattendue du président contesté du Venezuela, Nicolas Maduro. Il suggère d'échanger du pétrole contre des doses de vaccins. Petróleo por vacuna, dit-il, alors que son pays est sous le coup de sanctions économiques. Cela rappelle le programme pétrole contre nourriture qui avait permis à l'Irak, dans les années 90, d'écouler une partie de son brut.
Retour en France à présent avec cette décision très attendue, 10h ce matin, attendue par des milliers de familles.
Oui, et même 500 000 si l'on reprend le chiffre que donnait votre invité Mathieu il y a 20 minutes, Irène Frachon, la pneumologue qui avait alerté sur le Mediator. 500 000, c'est le nombre de patients qui ont eu des séquelles, souvent cardiaques, pour avoir pris ce médicament comme un coupe-faim. Le tribunal rend son jugement après 9 mois de délibéré. Et Irène Frachon, toujours avec la même pugnacité, s'étonne que les laboratoires Servier n'aient pas été davantage repris en main par les autorités.
Les victimes ont très bien raconté au procès qu'elles n'osent plus avaler le moindre médicament. Elles sont complètement effarées de voir que le laboratoire Servi a toujours pignon sur rue et toujours accueilli à l'Académie de médecine par des sociétés savantes, nous des partenariats avec l'école polytechnique et que sais-je encore. Moi j'ai déjà dit, un abattoir qui maltraite ses bêtes, il est fermé le lendemain quand même. Enfin, on a quand même des moyens de stopper ou de mettre sous contrôle ou sous tutelle une entreprise dont la direction est totalement hors des clous.
Irène Frachon, invitée de votre Tête à Tête, Mathieu, c'était à 7h40.
Nous sommes 12 jours après l'interview sur Europe 1 de la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, qui reconnaissait la tenue de réunions en non-mixité raciale. La polémique est toujours brûlante.
Puisqu'elle a rebondi ce week-end avec cette phrase d'Audrey Pulvar sur BFM TV. Audrey Pulvar qui est aujourd'hui adjointe à la maire de Paris et candidate pour les régionales en Ile-de-France.
Si il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., etc., ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. On peut lui demander d'être spectatrice ou spectateur silencieux.
Spectateur ou spectatrice présent, mais qui doit se taire. Toute la classe politique a réagi, à commencer par Xavier Bertrand, candidat, lui, dans les Hauts-de-France, mais aussi à la présidence de la République, et qui était l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1 hier.
Ça suffit. C'est l'UNEF un jour, c'est Madame Pulvar hier, et demain ce sera quoi? J'en ai assez, aujourd'hui dans les fonctions qui sont les miennes. Demain, si les Français me font confiance, je serai intraitable sur ces questions. L'identité nationale, elle n'est pas négociable.
Alors, il y a la droite, il y a l'extrême droite. Marine Le Pen demande des poursuites judiciaires contre Audrey Pulvar. Et il y a la gauche qui se déchire. L'entourage d'Olivier Faure, premier secrétaire du PS, rappelle dans le Figaro aussitôt qu'Audrey Pulvar n'est pas socialiste. Tandis que Jean-Luc Mélenchon la défend. Elle n'est pas raciste. Selon lui, elle a juste compris ce qu'est un groupe de parole.
Vous vous souvenez des deux gauches irréconciliables? C'était l'expression de Manuel Valls. On verra ce qu'il en dit. C'est dans 5 minutes à présent sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk.
Et puis un caillou dans la chaussure de l'économie mondiale. Il commence à bouger, ce caillou de 400 mètres de long qui bloque le canal de Suez depuis 6 jours. Le porte-conteneur Ever Given a tourné mais ne flotte pas encore. C'est les toutes dernières infos. Il est à 80% remis dans la bonne direction. On va rappeler que 400 navires de marchandises ou pétroliers patientent de part et d'autre.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant sur Europe 1 lors de passer à la caisse ou de demander un nouveau délai. Les prêts garantis par l'État arrivent à échéance. A tout de suite. 8h08 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Le quoi qu'il en coûte, ça n'était pas que le chômage partiel ou le fonds de solidarité. L'un des mécanismes les plus puissants, la perfusion financière pour les entreprises, se résume alors en trois lettres. PGE, prêt garanti par l'État, les tout premiers, étaient signés il y a juste un an.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
Depuis deux mois, les banques appellent leurs clients pour préparer les remboursements.
Oui, on va prendre l'exemple de BNP Paribas. Comme les autres banques, elle appelle une par une les entreprises qui ont contracté un PGE. On parle quand même de plusieurs milliers de dossiers. Alors pourquoi BNP les appelle? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, il faut fixer les conditions de remboursement et notamment la durée du prêt. Ça n'avait pas été fait au démarrage. Ces prêts ont été, il faut le dire, plusieurs fois améliorés depuis avec le durcissement de la crise. Ils durent maintenant 6 ans au maximum et l'immense majorité des entreprises, près de 7 sur 10, va aller au bout de cette durée. Et pourtant, une société sur deux n'a pas encore utilisé son PGE. C'est dire si l'incertitude est forte.
Et alors, combien coûtent ces prêts?
Eh bien, ce ne sont pas des prêts à taux zéro. Ils coûtent de l'argent. Il faut payer la garantie de l'État. Ça représente un taux de 1% pour les TPE-PME qui choisissent les durées les plus longues. Il faut ajouter à cela le coût du crédit pour les banques qui se sont engagées à ne pas faire de marge sur ces prêts. Même si la plupart des emprunteurs avaient plutôt compris le mécanisme, c'est parfois la douche froide comme pour ce restaurateur francilien. Il a signé l'année dernière dans l'urgence son prêt de 300 000 euros.
Au départ, on nous avait annoncé que c'était à 0%. Après, mon expert comptable ou moi-même, on a entendu parler de prêt à 0,25%. Et là, au dernier report de remboursement du prêt, on était passé à 1,26%. On est pris à la gorge. Et je pense que je vais devoir licencier. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Sinon, ça ne passera pas de toute façon.
Ah merci, on dit entendre ces difficultés, mais on l'affirme, on ne peut pas aller plus loin. Impossible de faire des prêts totalement gratuits.
Mais Emmanuel, ce ne sont bien souvent pas les seuls prêts à rembourser par ces entreprises.
Oui, beaucoup d'entreprises ont leurs prêts traditionnels, comme celui pour l'achat des locaux à rembourser. Et pour ceux qui sont fermés depuis des mois, comme les restaurateurs, c'est l'asphyxie. Ils sont nombreux à demander des reports à leur banque, mais ça bloquerait, selon Didier Chenet, le président du GNI, qui regroupe des restaurateurs indépendants.
Aujourd'hui, nous avons énormément de refus de la part des banques de rééchelonner les dettes qui ont été contractées par les entreprises avant la crise sur la base d'une activité qui n'a strictement plus rien à voir. En l'espace de 10 jours, nous avons eu près de 200 dossiers qui nous ont été remontés, que nous avons transmis à la Fédération bancaire.
Du côté de la Fédération bancaire, on a su regarder chaque dossier et voir ce qu'il est possible de faire. Et on assure que le taux de non-paiement de ces prêts est aujourd'hui inférieur à 5%.
Un an après les prêts garantis par l'État, dossier signé Emmanuel Duteil avec Zoé Pallier.
Un très joli reportage à présent. On va se plonger ce matin dans les coulisses de la restauration d'un film. Chantier titanesque quand il s'agit en particulier d'un long métrage datant de 1927.
Oui, et celui-là, a priori, vous ne l'avez donc pas vu en streaming. Il s'agit de Napoléon, du réalisateur Abel Gans. Alors, il en existe déjà plus de 20 versions différentes, mais apparemment aucune conforme à l'original. Des années de recherche permettent à la Cinémathèque de remonter ce film. Ça se passe au Fort de Saint-Cyr, dans les Yvelines, où s'est rendu Margot Barallon.
Voilà notre armoire Napoléon.
Derrière la porte jaune, une cinquantaine de boîtes de pellicules, des centaines d'autres venues d'un peu partout dans le monde, dorment dans les galeries du Fort de Saint-Cyr. Georges Mourier supervise la restauration et depuis 2009, il a expertisé 100 000 mètres de film.
Avant d'entamer une restauration, il faut d'abord reconstruire le montage d'origine. Certaines fois, pour un plan, je le recompose avec des morceaux d'images qui peuvent venir de Luxembourg, un morceau de Rome et de Belgrade en nitrate que vous avez vu là-bas. On rentre dans la salle de montage maintenant ?
C'est là, sur une enrouleuse, que les pellicules ont été examinées à la loupe avant d'être numérisées pour être retouchées plus facilement.
Et à partir de ce moment-là, on pouvait faire tout un travail de post-production qui était absolument impossible, ne serait-ce qu'il y a 15 ans.
Une fois remonté, le film doit encore être restauré, un travail de haute précision.
Pendant 2 ans, on a 3 ingénieurs R&D qui ont été mis sur le chantier de comment restituer les teintes. Ce sont des heures et des heures et des heures de travail pour 5 minutes.
Le film restauré, qui durera 7 heures, devrait être prêt à la fin de l'année. La restauration aura finalement duré 12 ans.
Ouais, 7 heures de film, a priori, il y a même de quoi le découper en une quinzaine d'épisodes de série, finalement.
Vous êtes prêts à le voir en streaming, vous, ce Napoléon d'Abel Gans de 1927.
D'une traite.
Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8 heures sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est l'invité de Sonia Mabrouk. A tout de suite. 8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, auteur de Pas une goutte de sang français chez Grasset.
Bienvenue à vous et bonjour Manuel Valls.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Si vous participiez à une réunion sur les discriminations à l'égard des Noirs, est-ce que vous prendriez la parole ?
Oui, bien évidemment, mais je vois que vous m'entraînez déjà dans les débats d'actualité et mon livre précisément traite de ces questions et d'autres et de mon cheminement personnel, de mes idées, de mes passions, de mes sentiments, mais traite aussi évidemment des dérives et des débats au sein de la gauche. Vous savez, quand on est de gauche, mais pas seulement, quand on est tout simplement républicain, on se pose une question. Comment être efficace dans la lutte contre le racisme et les discriminations ? J'avais moi-même parlé d'apartheid territorial, social, ethnique, le mot était fort, pour décrire ce qui se passait dans les banlieues, dans les territoires perdus de la République.
Mais est-ce qu'il est réel aujourd'hui, ce mot ?
Oui, mais je pense que ces mots décrivaient une souffrance et une situation. Mais comment on le fait ? En parlant clair, toujours, et pas en soutenant des réunions qui sont des réunions racialisées et qui précisément légitiment ce concept de race. On le fait avec les valeurs de la République, les valeurs universelles, et pas avec cette rhétorique victimaire si présente et qui justifie par ailleurs toutes les dérives. Et on le fait en parlant, jamais en faisant taire ceux qui ne pourraient pas, je mets les guillemets, parler au nom des victimes. Je prends un exemple. Pour lutter contre le racisme, pour parler du racisme, donc il faut être noir ou d'une couleur. Pour lutter contre l'antisémitisme, il faut être juif. Pour lutter contre les inégalités que subissent les femmes, les hommes ne peuvent pas parler. Non, ça c'est un naufrage politique, culturelle.
Rappelons aux auditeurs, c'est Audrey Pulvar, candidate soutenue par les socialistes à la présidence de la région Île-de-France, qui estime que si une femme blanche ou un homme blanc vient à une réunion réservée aux Noirs sur les discriminations, on peut lui demander de se taire.
La lutte contre le racisme, contre les inégalités, c'est l'affaire de tous. Ça, c'est le magnifique message de la Révolution française, de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
On en est loin,
c'est
là.
Le message de la France. Oui, on en est évidemment très loin, et tout cela, je le décris dans le livre, c'est un long processus qui, par paresse, par opportunisme politique, a conduit une partie de la gauche, ce que j'appelle la gauche identitaire, qui tourne le dos précisément aux valeurs universelles. Et cette gauche identitaire a fait sienne les idées, la culture américaine, celle par exemple des éditoriaux du New York Times ou du Washington Post, qui nous explique. Et cette rhétorique, elle est effrayante. Vous luttez contre l'islamisme et l'islam politique, vous êtes islamophobe. Ce mot créé pour clouer au pilori, je le rappelle dans le livre, Salman Rushdie, il y a 30 ans, qui subissait les menaces de mort des ayatollahs iraniens.
Et aujourd'hui, le fait de dire
quand
à une personne...
Quand vous luttez contre la laïcité, quand vous luttez, pardon, pour la laïcité, vous êtes raciste. Quand vous dites que l'universel ou l'universalité sont indispensables, vous êtes contaminé par les idées de l'extrême droite.
Et aujourd'hui, Manuel Valls, quand vous dites le fait de dire à une personne, en fonction de sa couleur de peau, taisez-vous, qu'est-ce que c'est, vous qui nommez les choses? Qu'est-ce que c'est?
C'est un naufrage. C'est un naufrage politique et intellectuel. C'est tout simplement le renoncement à se battre précisément pour ces valeurs universelles.
Mais c'est aussi une ligne du Parti Socialiste ? Est-ce que c'est aussi une ligne du Parti Socialiste ? Est-ce qu'on peut défendre les couleurs du Parti Socialiste dans la région Île-de-France avec de tels propos, puisque vous parlez de naufrage ?
Sonia Mabrouk, si j'ai pris du recul, si je suis parti en Espagne...
Mais vous êtes revenu.
Si j'explique mon amour pour la France, si j'aime le débat... mais avec cette belle idée défendue par un intellectuel de gauche, Jean Birbaume, qui parle précisément de la nécessité de la nuance, du courage de la nuance, en parlant de Camus, de Aron, de Bernanos.
Mais on peut être dans la nuance nommant les choses.
Non.
Oui, non.
Toujours, comme Camus, sinon c'est rajouter au mal du monde, au fond, et au mal des choses. Non. Mais moi je le veux. Vous le comprendrez, je pense être clair, et je vous l'ai dit il y a un instant, mais si je rentre dans les petites polémiques, je sais...
Est-ce qu'elles sont si petites que cela? Quand ça fracture la gauche, moi je vous pose clairement la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de racisme, et ce serait grave dans ces propos?
Précisément, quand j'ai évoqué il y a 4-5 ans, et c'était une formule que je crois fort juste, et si je reviens dans le débat politique, c'est parce que quand j'ai parlé des gauches irréconciliables... Quand j'ai été l'un des premiers responsables politiques à m'élever contre les dégâts, les dangers de l'islamisme et de l'islam politique, quand j'ai considéré qu'on ne défendait pas assez la République et la laïcité, à l'époque déjà, on m'accusait, au fond, d'hystériser le débat.
Mais qui est ce
« on » ?
C'était aussi une partie de la gauche, c'était le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi au sein même de votre parti, le Parti Socialiste.
C'est pour cela que j'avais parlé de gauche irréconciliable, mais j'ai quitté ce parti, j'ai quitté le Parti Socialiste. Mais moi, je ne veux pas polémiquer avec tel ou tel. Tout ce qui arrive, tous ces discours, je les connais. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que j'avais parlé des gauches irréconciliables.
Je pose
et c'est pour ça
de
que
nouveau
je suis
la question.
Aussi clair.
Est-ce que ce racisme, je vais aller plus loin, est-ce que le racisme anti-blanc existe selon vous?
Mais oui, bien évidemment. Et précisément...
Certains affirment qu'il n'existe pas, qu'il y a au contraire un privilège blanc qui institutionnalise les discriminations ethniques.
Mais quand on organise des réunions racialisées, quand on veut interdire la parole à ceux qui n'auraient pas le droit de prendre la parole parce qu'ils ne seraient pas les victimes, alors en effet, on légitime le concept de race, et ça c'est insupportable. C'est encore une fois une régression, et c'est particulièrement dangereux. Pas seulement pour la gauche, mais tout simplement pour la République. Et ça, c'est encore une fois, ces combats sont l'affaire de tous.
Oui, mais ça se passe à gauche. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, est ciblé par Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a relevé les ambiguïtés du leader de la France Insoumise sur les réunions en non-mixité raciale, sur l'islamo-gauchisme. Le premier secrétaire du PS a été qualifié par Jean-Luc Mélenchon de relais de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous pensez de cette attaque?
Ça veut bien dire qu'il y a des gauches au pluriel qui sont irréconciliables, et quand elles sont irréconciliables sur le plan des idées, de la bataille culturelle, parce qu'il s'agit d'une bataille culturelle, il ne peut pas y avoir d'alliance. Il ne peut pas y avoir d'alliance, et je l'ai dit, et je le souligne, et je le répète, il ne peut pas y avoir d'alliance sur un sujet aussi grave qui est cette crise culturelle, identitaire, que traverse non seulement notre pays, mais aussi la gauche. Et c'est d'ailleurs pas un débat uniquement français, parce qu'encore une fois, ces idées, elles contaminent. Et le débat, et vous m'en parlez, a lieu précisément parce que ces confrontations nécessaires, bien évidemment, elles ont lieu où? Dans l'espace universitaire, à l'école. Quand un professeur de trappe n'est pas soutenu, c'est grave, parce qu'il est celui qui enseigne précisément, qui transmet des savoirs, qui enseigne des valeurs. Et tout cela aboutit, par exemple, malheureusement, à la décapitation, à la mort de Samuel Paty. Quand on poursuit des enseignants à Sciences Po Grenoble, quand on met leur nom sur un mur, quand on les cible, c'est particulièrement grave. Quand on organise des réunions racialisées au sein même de l'université qui est censée délivrer précisément cet universalisme, ces valeurs universelles, cette culture, c'est particulièrement grave. Et donc, je le rappelle dans le livre, une partie de la gauche, cette gauche identitaire, syndicats enseignants, ouais. Ligue de l'enseignement, Ligue des droits de l'homme, oui. France insoumise, UNEF, évidemment, c'est la conséquence de tout cela.
Dans
et
votre livre aussi.
Il y a un défi considérable pour la République et pour la gauche, mais qui est aujourd'hui dans une impasse. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faut remobiliser le pays autour des valeurs de la République.
Dans votre livre, Manuel Valls, vous dénoncez la tenaille identitaire qui est caractérisée, selon vous, par ses deux bras. À l'extrême droite, dites-vous, Éric Zemmour. Et à l'extrême gauche, Assa Traoré. Selon vous, il y a une équivalence sociologique entre l'islamo-gauchisme et le populisme ?
Oui, bien évidemment, parce que ça aboutit en permanence à désigner des ennemis. Là, à revoir l'histoire de France ou l'histoire universelle, à désigner des ennemis, c'est les immigrés ou les Blancs, à détruire ce qu'est l'histoire de France, précisément, d'un côté en expliquant que Pétain et De Gaulle, c'est la même chose, et de l'autre, expliquer que la France est raciste au nom de son passé colonial. Et ça, c'est insupportable.
Mais on a l'impression que lorsque la gauche, comme vous, rompt avec une partie de la gauche, elle a besoin d'un repoussoir pour ne pas montrer qu'elle se droitise, ou pire, qu'elle s'extrême droitise. C'est ce
non,
que vous
ça,
faites.
Je ne vous suis pas, Sonia Mabrouk, sur cette idée-là. Parce que,
vous n'êtes pas en train d'apporter des garanties à la gauche en mettant sur le même plan.
Je n'ai pas besoin d'apporter des garanties. Moi, ma gauche, c'est celle d'Elisabeth Badinter, c'est celle de Jacques Julliard, c'est celle de Caroline Fourest, c'est celle de Laurent Bouvet qui a inventé ce concept précisément de la tenaille identitaire. C'est celle de Rachel Kahn qui illumine les plateaux de télévision, pas par sa couleur de peau, mais par ses mots et par son universalisme. J'ai pas besoin de mode caution. Je décris ce qui se passe partout dans le monde. La démocratie, pas la gauche seulement, la démocratie, la République française sont pris en tenaille entre cette logique et le débat que nous commentons depuis un moment, qui est un débat grave, et je vous l'accorde, au fond, alimente l'un et l'autre, et ça leur va bien. Donc, il ne peut y avoir de sortie, de solution, que par l'alliance de tous les républicains dans une défense intransigeante des valeurs qui sont celles de la République, de la laïcité, mais en y mettant évidemment du contenu
et,
à chaque fois.
Et on
c'est
l'entend
ce, que
ce
je
matin,
dire.
Vous êtes entré dans le débat politique et de
bien
l'actualité.
Bien sûr, et en plus vous m'y aidez avec talent.
Mais que répondez-vous à ceux qui vous dépeignent, Manuel Valls, en opportuniste en chef, candidat à tout, avec tous, pourvu qu'il y ait un poste à la clé? Vous l'entendez cela?
Non, je l'entends pas, c'est pas vrai. En plus, précisément, je dis que je ne suis candidat à rien. Mais par l'expérience...
Vous n'êtes candidat à rien?
Non, sinon au débat. Et je viens de le démontrer encore ce matin. Et je le démontre à travers un livre qui parle encore une fois de mes passions.
Mais de vos échecs aussi. Vous le reconnaissez, vous étiez devenu un épouvantail, même la figure du traître.
Oui, de mes
échecs.
Je me suis senti un moment rejeté, à la fois par les Français, par mon parti, y compris pour des raisons aussi personnelles. Ma vie personnelle était particulièrement difficile. Donc j'ai ressenti à un moment la nécessité, tout simplement, de partir. Mais ce livre, c'est aussi, tout simplement, celle de l'unité d'un homme, par ses passions, sa culture, son goût de la peinture et des livres. Et qui explique son amour, c'est un cri d'amour pour la France.
Mais vous avez plusieurs amours, Barcelone, Paris, vous avez fait Paris-Barcelone, puis Barcelone-Paris, est-ce que c'est le
je
dernier?
Je n'ai qu'un amour, c'est Susanna, c'est mon épouse.
Non mais bien sûr, vous m'avez compris.
Eh ben oui, mais si, je vous prends au mot alors.
Non, prenez-moi au mot
ce livre, y compris par la distance,
sur les pays,
Manuel Valls. M'a fait comprendre, je n'ai qu'une patrie, Sonia Mabrouk, c'est la France, parce que je l'ai servie. J'étais ministre de l'Intérieur, j'étais Premier ministre dans les moments particulièrement difficiles. Et c'est toute ma vie, vous savez, la France. Toute ma vie, parce que moi, je suis un enfant naturalisé. J'ai appris la France grâce à mes parents, grâce aux livres, grâce à la musique, grâce au cinéma. Pour ça que je parle de Depardieu, de Vianney, de Blanche Gardin. Je suis devenu français grâce à des hommes et à des femmes comme Robert Badinter. C'est ça, grâce
et
à
on
des
entend,
héros
on
comme le général
Favier. Qui vibre
non,
en
non,
vous,
non,
mais
non,
en quoi,
Sonia
en
Marie,
quoi
c'est
pour
ça la France. Et donc, parce que je suis français, parce que j'aime ce pays, je ne veux pas qu'il sombre, je ne veux pas qu'il se donne à Marine Le Pen, et je ne veux pas de cette gauche identitaire qui a tourné
on
le dos aux valeurs de
mais
la
en
République.
Quoi un carbonisé de la politique peut être utile à
parce
son pays?
Parce que j'ai eu raison sur bien des sujets, je reviens dans le débat politique au nom des idées. Et parce que la France, précisément, ce sont des idées avant tout. C'est une magnifique idée d'être français. Et c'est le sens de mon livre.
Merci Manuel Valls.
Merci à vous Sonia Mabrouk.
D'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. 8h28 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'info avec Marion Calais et un nouveau point météo, Laurent Cabrol. Restez bien sur Europe 1. 8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
C'est l'histoire d'un médicament destiné aux diabétiques, largement détourné pour ses propriétés coupe-faim. Un traitement dont la dangerosité avait fait l'objet de plusieurs alertes, mais qui a continué à être vendu, à être remboursé, faisant des centaines de victimes. Cette histoire, c'est celle du Mediator, dont doivent répondre les laboratoires Servier, mais aussi l'agence du médicament. La justice va se prononcer aujourd'hui dans cette affaire. Gladys Laffitte, vous êtes devant le tribunal correctionnel de Paris pour Europe 1, jugement très attendu. Tout à l'heure.
Oui, un jugement qui sera rendu dans 1h30 maintenant, ici où le procès s'est tenu durant 6 mois, plus de 500 heures d'audience. Un procès absolument hors norme avec plus de 6500 personnes constituées partie civile, 400 avocats et des centaines de témoins. Le parquet a réclamé plus de 10 millions d'euros d'amende contre les laboratoires Servier et même de la prison contre son ex numéro 2, 5 ans dont 3 fermes. Les victimes et leurs proches espèrent une condamnation, comme Ludovic Messier-Petit. Il a perdu sa mère en 2011. Elle avait 63 ans et pris du Mediator pendant 30 ans. Il suivra le délibéré depuis le tribunal de Montpellier où ce sera aussi retransmis. Écoutez-le.
Ces gens-là, pour nous, en fait, on va empoisonner la mère. J'ai l'impression qu'il y avait deux discours chez les laboratoires Servier avec ce que disaient certaines personnes à la barre. Et ils essayaient de dire qu'ils étaient désolés. Ça paraissait pas sincère. Quoi. Et si le Mediator peut servir de leçon justement pour que ça se reproduise pas, ce serait une bonne chose. Quoi.
Pour le ministère public, cela ne fait aucun doute. Les laboratoires Servier ont fait le choix cynique, je cite, de privilégier leurs intérêts financiers à la santé des consommateurs du Mediator. Ils connaissaient le danger de ce médicament, même s'ils s'en sont toujours défendus à la barre. L'agence du médicament a, elle, reconnu une part de responsabilité lors des débats. Là aussi, une amende a été requise, 200 000 euros. On attend maintenant le jugement du tribunal.
Gladys Laffitte au tribunal correctionnel de Paris pour Europe 1. Les premières recommandations aujourd'hui du comité citoyen sur la vaccination désigné en janvier. 35 Français vont faire aujourd'hui une première restitution de leurs travaux, Anne Le Gall.
Oui, ce collectif de 18 femmes et 17 hommes venant de différentes régions de France s'est fait volontairement discret jusqu'ici. Certains pensent que l'on a été dissous, mais nous avons beaucoup travaillé, explique sa porte-parole Marjorie, 45 ans, qui vit dans la Drôme. Après plusieurs réunions à distance, des auditions d'experts, leurs premières recommandations portent essentiellement sur la campagne vaccinale. On manque de témoignages positifs sur la vaccination, explique-t-elle, et il faudrait aussi diffuser des messages ciblés à destination des jeunes, notamment sur les réseaux sociaux.
Il faut anticiper et penser à eux dès maintenant. Parce qu'ils ne se sentent pas, investis dans la campagne. Déjà, eux, ils risquent pas de faire des formes graves de la maladie, alors que maintenant, ils sont très impactés par les mesures sociales, et beaucoup moins par la maladie et par les risques individuels.
Autre demande de ce collectif citoyen, faciliter les prises de rendez-vous et la vaccination à domicile, mettre en place des unités mobiles pour vacciner sur les marchés en zone rurale par exemple. Surtout, il faudrait davantage impliquer l'échelon local dans l'organisation de la campagne.
Une précision d'Anne Le Gall pour Europe 1. Et puis à partir de ce lundi aussi, début de l'examen du projet de loi climat et résilience issu de la Convention citoyenne sur le climat, examen à l'Assemblée.
Merci beaucoup Marion Calais. 8h34, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Pour vous donner un temps ensoleillé, un temps relativement chaud même, très agréable, autant dire que nous allons vivre une belle journée de lundi. Mardi, mercredi, jeudi seront de la même veine, vendredi ça commencera un petit peu à se gâter, et puis le congé pascal malheureusement il risque d'être quand même très arrosé et beaucoup plus frais, pour ne pas dire froid, enfin bref, on n'y pense pas pour l'instant. Alors, les températures pour aujourd'hui, 17 degrés à Nice et à Dunkerque, 18 degrés à Marseille comme à Bastia, 20 degrés à Valenciennes et à Maroilles dans le nord, 21 à Camembert, Livaro dans le Calvados, à Rennes, Nancy et Colmar, 22 à Paris et Coulommiers en Seine-et-Marne, ainsi qu'à Lyon et à Chavignol pour Saint-Crotin dans le Cher, 23 à Tours, à Nevers, à Limoges et Rocamadour dans l'Hôte, 24 à Bordeaux, à Saint-Nectaire dans le Puy-de-Dôme et à Ipoisse comme à Roquefort dans l'Aveyron, et puis 25 degrés à Mont-de-Marsan et Arcachon. Conclusion, cette météo valait bien un fromage sans doute.
Cette météo nous aura ouvert l'appétit, mon cher Laurent Cabrol. Et pourtant, vous ne les avez pas tous cités. Pourtant.
Non.
Impossible. On n'a pas le temps, on y sera encore à 10h ce matin. Merci Laurent Cabrol. 8h35 sur Europe 1. Dans quelques toutes petites secondes, notre santé avec Jimmy Mohamed.
Nous sommes passés à l'heure d'été depuis ce week-end. Et si on en profitait pour resynchroniser notre horloge biologique grâce à la lumière? Car oui, nous avons une horloge dans le cerveau qui fait tic et qui fait tac.
A tout de suite, Jimmy Mohamed. 8h37 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Notre santé est présentée par Atoll et l'innovation Lexilens, les premières lunettes qui facilitent la lecture pour les personnes dyslexiques.
Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Nous sommes donc passés ce week-end à l'heure d'été. Est-ce que ce changement d'heure peut avoir une influence sur notre sommeil ?
Oui, exactement. On oublie que le corps humain possède une horloge qui est située dans le cerveau qui va contrôler de nombreux paramètres comme la température, la production d'hormones, mais aussi le rythme veille-sommeil, c'est-à-dire quand est-ce que nous devons être réveillés et quand est-ce que nous devons dormir. Et cette horloge, elle fonctionne sur un rythme proche du jour d'environ 24 heures. Et dans un certain nombre de cas, l'horloge peut être perturbée avec par exemple ce qu'on appelle un retard de phase. Vous allez vous coucher très tard et vous levez très tard. C'est ce qu'on peut observer notamment chez les adolescents qui en fait ont en quelque sorte une forme de décalage horaire. Et un adolescent naturellement voudra se coucher plus tard que les enfants. C'est pas parce qu'il est feignant, c'est juste que son horloge biologique lui dit de se lever plus tard aussi. Raison pour laquelle les rythmes scolaires ne sont pas tout à fait adaptés au rythme des adolescents.
Il faut bien comprendre ça. L'ado qu'on a, je le dis là pour les parents qui nous écoutent, vous êtes peut-être encore en train d'essayer de les sortir du lit. C'est normal en fait, c'est
normal.
Physiologique.
C'est physiologique et c'est biologique. Et à l'inverse, vous
ça c'est
avoir...
une excuse pour les ados qui nous écoutent au moins. Voilà.
Exactement. Et à l'inverse, on peut avoir une avance de phase, c'est-à-dire que vous allez vous coucher très tôt, c'est ce qu'on peut observer lorsqu'on vieillit un petit peu, vous allez vous coucher vers 20h et vous réveillez très tôt, vers 4h du matin. Alors, cette horloge biologique, elle est sous l'influence de plusieurs choses. La première, c'est les facteurs sociaux, le fait que vous allez travailler, manger, faire de l'activité physique, ça va réguler votre horloge biologique. Et on comprend qu'avec le Covid, nos modes de vie ayant été bouleversés, eh bien nous avons du mal à dormir. Et la deuxième chose qui va permettre de réguler cette horloge biologique, eh bien c'est tout simplement la lumière.
Alors justement, là les journées vont s'allonger, changement d'heure, avec plus de lumière. Est-ce que c'est une bonne chose ?
Alors oui et non, parce que finalement, s'exposer à la lumière, ça reste important, mais surtout le matin. Si vous vous exposez à la lumière du matin, quelle qu'elle soit, le mieux c'est la vraie lumière, eh bien ça va synchroniser votre horloge biologique pour faire comprendre à votre cerveau qu'il faut rester éveillé. Et ce qu'on oublie, c'est que pour bien dormir, il faut être bien éveillé. Ça va permettre de réguler justement cette horloge et de synthétiser le soir de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone, non pas du sommeil, mais l'hormone de la nuit. Et puis mine de rien, lorsque vous exposez à la lumière en journée, ça va permettre de lutter contre la dépression saisonnière qu'on pouvait avoir durant la période un peu compliquée. Mais en revanche, si vous vous exposez le soir de façon massive à la lumière, eh bien votre horloge biologique va être perturbée et vous allez avoir un retard de sécrétion à cette mélatonine et vous allez avoir du mal à vous endormir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le matin, il faut ouvrir les volets, il faut sortir, même si vous êtes en télétravail, faire des petites pauses et c'est valable aussi pour les étudiants. Et le soir, il faut faire attention de ne pas trop prolonger la journée, sinon vous allez avoir du mal à dormir.
Mmh. Vous avez du mal hier soir à aller coucher. Hein.
Un petit peu, c'était compliqué.
Moi j'ai eu droit, hein. Papa, je sais très bien que t'as changé l'heure. C'est pas de ma faute, hein. Je voudrais dire c'est pas moi qui a changé l'heure. Mais c'est comme ça, il fait jour plus tard. Merci Jimmy, on vous retrouve à 15h tout à l'heure dans 100 rendez-vous. Tiens, ça peut peut-être aider pour ces questions de sommeil.
Oui, on va parler de phytothérapie, c'est le traitement par les plantes, car contrairement à ce qu'on pense, la phytothérapie c'est une science et on va recevoir un médecin phytothérapeute.
A tout à l'heure 15h, 100 rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. 8h40, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Divulguer les noms et les marques des entreprises qui fraudent, c'est la demande de l'ONG Foodwatch au gouvernement français pour lutter contre la fraude alimentaire.
Oui, c'est ça. Dénoncer les fautifs pour les dissuader de recommencer, ça paraît plutôt intuitif, mais c'est chose rare lorsque la direction de la répression des fraudes attrape les entreprises et les réseaux qui sont derrière un délit de fraude alimentaire. Dans un livre enquête choc titré « Manger du faux pour de vrai » publié jeudi dernier, l'ONG Foodwatch recense une panoplie préoccupante de fraude aux aliments. Elle appelle donc les citoyens à signer sa pétition sur le site foodwatch.org pour inciter le gouvernement à faire preuve de plus de transparence sur ce sujet et lever la loi du silence autour de ces manigances qui troublent le contenu de nos assiettes.
Mais de quel type de fraude est-ce qu'on parle, Fanny ?
Alors, tenez-vous bien, ça concerne autant les petits producteurs comme les géants de l'agroalimentaire, le bio comme le non-bio. Aucun type d'aliment n'y échappe. La liste fait d'ailleurs assez peur. Poulet injecté à l'eau pour l'alourdir, du sirop de glucose vendu comme du miel, des fausses étiquettes bio ou AOP, de l'huile de tournesol mélangée à l'olive et vendue comme de l'olive pure. Et puis, ce chiffre marquant, 59% du poivre vendu en France est coupé avec
du sable, c'est-à-dire deux flacons de poivre sur trois, oui, sont concernés.
Alors, ça veut dire que la direction de la répression des fraudes ne fait pas bien son travail ?
Elle le fait bien, elle réalise de grosses enquêtes sur ces questions. C'est d'ailleurs comme ça que Foodwatch a pu documenter tous les chiffres utilisés. Mais il y a deux problèmes majeurs. D'abord, la répression des fraudes est en sous-effectif. Elle ne peut pas contrôler l'ensemble du territoire français qui est soumis au libre-échange européen. Et puis la pandémie n'a rien arrangé puisque la répression des fraudes a d'abord fonctionné en télétravail avant de payer une attention toute particulière aux fraudes, plutôt aux masques et aux gels hydroalcooliques, la détournant en partie des fraudes qui sévissent habituellement. Et puis, le second vrai problème, c'est que les rapports d'enquête des organes de l'État ne donnent jamais les noms des fraudeurs responsables. Et puis, vous venez, sans divulgation des marques, difficile de donner le choix aux consommateurs de mieux filtrer ses achats. En Irlande, l'autorité de contrôle de l'alimentation peut déclencher des alertes à la fraude qui préviennent petits et grands distributeurs, et même les citoyens lambda peuvent la recevoir par SMS s'ils le veulent. Une idée dont notre pays pourrait s'inspirer pour essayer d'endiguer cette inacceptable fraude alimentaire.
Merci beaucoup Fanny Agostini, notre planète tous les matins, c'est sur Europe 1. Dans quelques toutes petites secondes, la revue de presse, Nicolas Canteloup arrive. Julie s'est déjà installée, à tout de suite. 8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Tout de suite, Mathieu Béliard qu'on retrouve pour les infos du jour.
Oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous retrouver. Europe 1 vous accueille, chers auditeurs, pour vous faire vivre l'info. Avec Europe 1 regarde le monde changer. L'info du jour, ce sont les écoles. Les écoles des 19 départements confinés qui devront fermer une classe dès le premier cas. C'est la nouveauté dès le premier cas. Eh bien, si on ferme les écoles, c'est pas comme ça qu'on va former une génération de médecins réanimateurs. Ça c'est sûr. Allez, bon, ça c'est. École toujours. Vous l'avez compris, le sujet me passionne ou me fait peur parce que moi je fais l'école dans mon garage. Allez, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron pourrait annoncer un confinement strict et une fermeture des écoles ce mercredi ou pas. Mais peut-être, on verra, allez, Inch'Allah. Comme quoi, on accusait quelque part, Julie, Macron de faire une politique du « en même temps ». En fait, il fait une politique du « on a le temps ».
On a
pas
le temps,
sûr que ce soit très efficace, le « on a le temps ». Et puis, l'autre info, c'est ce canal de Suez bloqué par un cargo échoué en travers, complètement en travers. On a vu les images du canal de Suez créant un gigantesque embouteillage, un cargo de 300 mètres de long, beaucoup trop gros pour passer par là. Ouais. Et pour donner une image pour nos auditeurs, c'est comme si Gérard Larcher essayait une chemise taille S.
Oh, c'est l'image. C'était nécessaire, ça. Allons.
Ben oui, des millions de tonnes de marchandises seraient bloquées. Il manquerait plus que les vaccins pour la France soient dans le cargo. Vu la chance qu'on a, et je ne serais pas étonné.
Merci Mathieu. Allez, on va commencer par cet événement télé, le retour de Michel Drucker à la télévision. On est ravis, on en parle avec Michel Simès pour en connaître les coulisses.
Eh oui, bonjour Marina, bonjour à mon confrère vacciné, Jimmy Mohamed. Écoutez, c'est un retour des plus classiques. J'étais effectivement présent dans les coulisses de Vivement Dimanche, en cas de pépin, en compagnie, bien sûr, du professeur Jean-François Delfrécy, de l'urgentiste Patrick Peloux, du docteur Martin Blachier, du généraliste Marcel Ichou, de Marina Caradancos, de Gérald Kerzek, et d'Éric Combes, et de Jean-François Toussaint, ainsi que de Didier Raoult, et donc, bien sûr, vous l'avez compris, de Jimmy Mohamed, l'incontournable Jimmy Mohamed.
Eh ben, il y en avait du monde, dites-moi, Michel.
Quelle équipe !
Oh là 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 !
Oui, il y avait du monde, un peu à noter aussi, bien sûr, la présence du ministre de la Santé, Olivier Véran, pour chapeauter tout ce petit monde.
Eh ben, dites donc, vous avez cité tout le monde, ça y est, Michel Simès ?
Pas tout à fait. Michel Drucker tient aussi à remercier, par mon intermédiaire, les personnes du SAMU et les pompiers qui étaient là en cas d'urgence, ainsi que tout le personnel de l'hôpital de campagne de l'armée et du bloc opératoire installé juste à côté du studio Gabriel, ainsi également que le pilote d'hélico qui était prêt à décoller à tout moment en cas de petite défaillance de Michel.
Ah là là, c'est bon là, Michel. Hein, je crois que vous n'avez oublié personne cette fois-ci.
Mais en tout cas, la vraie bonne nouvelle, ma chère Julie, c'est que maintenant que Michel va vraiment mieux, tout ce petit monde pourra retourner bosser et les tensions hospitalières, du coup, sera totalement résolue.
Merci, Michel. Et on embrasse Michel Drucker qui nous écoute.
Avec plaisir.
On revient maintenant sur la candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle. Les ténors de la droite n'aiment guère cette candidature et réclament déjà des primaires. Bonjour, Laurent Wauquiez.
Bonjour, Madame Julie. Bonjour, mon Béliard.
Mon bon Béliard.
Je ne suis pas content, Madame Julie.
Qu'est-ce qu'il
y a ? On ne va pas laisser l'agent d'assurance y aller tout seul. Il va falloir compter sur moi, je vous le dis tout de suite.
Non, mais je croyais que vous aviez arrêté la politique nationale, que la seule chose qui vous intéressait, c'était votre région.
Oui. Bah, mais parce que je pensais qu'une pointure allait reprendre le parti. Mais si c'est pour voter pour un petit gros que je déteste, là non. Si n'importe quel nullard de province peut se présenter, alors j'ai largement le profil, je vous le dis.
Allez-y, présentez-vous alors. Allez, merci Laurent Wauquiez. On fait maintenant un point
C'était simple, clair et limpide.
C'est vous qui le dites. On fait maintenant un point sur la situation sanitaire en France. Emmanuel Macron est notre invité ce matin. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous et bravo à l'équipe de France, permettez-moi de le dire, de football, qui a battu le Kazakhstan. Ouais. Vous allez me dire, c'était évident.
Bah oui.
Oui, mais pardon, mais le bilan de Castex en vaccination, on est battu par le Kazakhstan. Hein. Ouais.
Je rappelle que la situation est toujours alarmante, hein, que votre confinement dehors ne semble pas marcher et que pour toute réponse face à un futur confinement strict, vous avez dit, rien n'est décidé.
Voilà, rien n'est décidé. On attend encore un peu. Voilà.
Non, pardon, mais c'est votre position depuis janvier d'attendre. Et chaque semaine est pire que celle qui vient de se terminer.
Oui, mais on attend.
Oh là là.
Non, mais écoutez, on ne sait jamais. Si ça se trouve, ça va s'arrêter net en faisant rien. Donc, du coup, la stratégie, c'est on attend.
Bon, ben, attendons donc. Hein.
Voilà.
Et parlons du projet de loi climat qui a été examiné à l'Assemblée. Un petit mot.
Alors, sur la catastrophe écologique qui se prépare, sur la planète qui se réchauffe, là, ma position est très claire.
On vous écoute.
Rien n'est décidé.
Oh là là.
On attend.
Oh.
Mais si ça se trouve, le réchauffement climatique, ça va s'arrêter net, en faisant rien. Du coup, on attend.
Eh ben, on va croiser les doigts.
Quel joli lapsus.
Très bien.
Oui, c'est bon, en fait. La semaine dernière, Le Figaro titrait « Édouard Philippe, la tentation du recours ». Bonjour, Édouard Philippe.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Béliard, c'est Cabrol, la tentation de recours, vous dites.
Oui.
Non, écoutez, sachez une chose, Mme Julie, c'est que, vous l'avez compris, je suis loyal envers le président Macron.
Oui, mais vous comprenez quand même que vous manquez aux Français.
Non, écoutez, je n'essaie pas de... Non, je ne dirai pas de mal de mon successeur, car je suis loyal envers le Premier ministre Jean Castex, qui ressemble à Patrick Sébastien quand il imitait Bourville à l'époque.
Loyauté.
Donc vous ne pourriez pas être le recours qu'attend la droite ?
Mais non. Je suis loyal, je viens de vous le dire, envers le président Macron.
Oui, on a bien compris.
Qui m'a viré comme une merde. Et pour Bourville, en plus.
Voilà. Bon, on dit quand même que vous vous préparez secrètement, hein, au cas où Macron aurait un accident, par exemple.
Non. Je suis loyal envers le président Macron.
On a compris.
Il a déjà eu son accident. Il s'appelle Castex.
Bon. Vous n'arrêtez pas de dire non, mais vous sortez un livre dans quelques jours. Et on en connaît des hommes politiques qui sortent des livres en année présidentielle.
Mais puisque je vous dis que non, je serai loyal envers le président Macron jusqu'à ma mort.
Oh là là, ouais.
Qui peut arriver plus vite que prévu, vu comment Castex gère le Covid. On va tous mourir avec lui, ça je vous l'annonce.
Ah, bah dis donc. Merci Édouard
Philippe.
Loyal.
Hein.
Allez, hier, Michel Drucker faisait donc son retour à la télévision. Notre envoyé spécial au paradis a regardé l'émission. C'est Charles Aznavour, notre envoyé spécial au paradis.
Nye. 1-2, Paris-Bordeaux-Marseille, 1-2, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend, Charles, on vous entend.
Non, parce qu'ils n'ont pas la 5G, ces cons, là. 1-2, 1-2.
Non, on vous entend, allez-y, Charles.
Non, c'est Charles.
Oui,
C'est que ce week-end, je vais regarder France 2.
Oui.
Parce que je me suis fait poser une box clandestine, tombée du camion par Nourdine, un copain du bled, pour 50 euros par an. J'ai toutes les chaînes du monde gratos. Bref,
oh, bien.
J'ai regardé France 2, samedi. Mmh. Qu'est-ce que je vois ? Lynn Renault, 93 ans, et hier, Michel Drucker, 108 ans. Du coup, je me suis dit, tiens, super, France 2 a ouvert un studio là-haut. Je vais pouvoir repasser la télé. Non. Ils sont encore en bas, Drucker et la Lynn.
Bah, évidemment. Mais ils sont bien vivants. Ils sont en pleine forme, on l'a vu hier. Michel, il était en pleine forme.
Oui, enfin, en pleine forme. Le Michel, il a des genoux en titane, une hanche en carbone, un cœur en Kevlar. Oh. Le gars, c'est Robocop. C'est plus que des pièces extérieures. Évidemment qu'il va pouvoir tenir encore 30 ans, comme ça. Tant qu'il y aura des garagistes, finalement, il peut tenir. Hein, monsieur Béliard. Allez, salut à tous et n'oubliez pas, nous reverrons un jour ou l'autre.
Non, oui, c'est bon.
Si vous y tenez autant que moi.
Merci, Charles Aznavour, en direct du paradis.
8h54, merci beaucoup Nicolas Canteloup.
Et Julie, la revue de presse qu'a retrouvée sur Europe 1.fr, évidemment. Et on va remercier au passage Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. 8h55 sur Europe 1 dans quelques toutes petites secondes. On va retrouver Philippe Vandel, Culture Média, toute son équipe qui va s'installer dans le studio. A tout de suite. 8h57 sur Europe 1 dans quelques minute, c'est Culture Média avec Philippe Vandel, la matinée qui continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Mais oui, bonjour Mathieu, ça va?
Très bien. Vous
avez vu ce chanteur qui demande aux gens de s'embrasser, fuck the Covid?
Francis
Lalanne. Exactement. Et bien notre Infomédia du jour s'intéresse à une nouvelle plateforme qui entend lutter contre la désinformation, contre le complotisme. Elle s'appelle Spicy Educ, éduque comme éducation, et elle propose des documentaires et des fiches pédagogiques. On en parle avec Jean-Bernard Schmitt.
On en a bien besoin.
C'est justement le cofondateur de Spicy. Au sommaire également, nouvelle émission littéraire sur Canal+, 21 cm, c'est fini. Voici maintenant, pas une émission littéraire, un magazine autour de l'univers du livre. Il sera animé par le journaliste et comédien Cyril Eldin. Il sera dans ce studio. Et puis le chanteur Eddy de Préto, 3 ans qu'il n'avait pas sorti d'album depuis le succès pharaonique de son premier album, qui s'appelait Cure A. Merci pour le titre, c'est le titre Bateau Mouche qui ouvre l'album d'Eddy de Préto, deuxième disque consacré, dédié à tous ceux qui dérangent. Une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau. Début.
Eddy de Préto, donc, dans Culture Média.
Exactement.
Tout à l'heure. Bien, écoutez, Philippe Vandel, je repense à ce que disait Bertrand Chameroy à 7h40 pour Francis Lalanne. Elles ont changé les tournées Star 80. Bertrand Chameroy qui sera à 10h dans Culture
Exactement.
Média. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Pareil. Tout est lié finalement. Philippe Vandel reprend la main de 9h à 11h sur Europe 1. Très belle journée à l'écoute d'Europe 1, bien sûr. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.